When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1, la F1 qui a laissé la vedette le week-end dernier aux 24 heures du Mans et à une édition du centenaire absolument monumentale et qui s'est soldée par la victoire de Ferrari face à Toyota. Et bien justement, on va essayer de tirer un petit peu un bilan, revenir sur cette édition du centenaire, à se demander si l'édition du centenaire n'a pas été la course du siècle. On parlera aussi justement, on va élargir un petit peu le spectre en faisant le lien entre l'endurance et la F1, la victoire de Ferrari. On a vu que Charles Leclerc était là, Max Verstappen parle finalement aussi de son envie de faire les 24 heures du Mans, pourquoi pas avec Ferrari, là il y a peut-être un point de connexion, et on aura pour échanger là-dessus Cédric Voisard, qui est un des meilleurs connaisseurs de la Formule 1 du monde, des sports mécaniques en général, qui fera son entrée dans le club des fous du volant. C'est toujours sympa d'avoir un nouveau membre, Stéphane, non ?
Ah ben, Cédric a été et reste un pilier en sport mécanique, paddock, F1, WRC et WEC, maintenant, ouais. Hein, on le verra. Donc, c'est toujours très enrichissant de parler avec lui. Il sait tout ce qui se passe en coulisses.
Et puis, on va parler aussi du marché des transferts, mais cette fois du côté des ingénieurs ou du personnel technique. On évoque souvent hein, les pilotes, mais il y a un marché aussi du côté des ingénieurs. Et il est tout aussi impitoyable. Il est même en pleine effervescence. On va revenir sur ce qui se passe en ce moment chez McLaren, chez Audi.
Il paraîtrait qu'il y a même des clowns chez Audi.
Ah,
oui. Bon, alors, nous, on s'engage pas là-dessus, hein, clairement. Voilà,
mais on rapporte, simplement.
C'est ça. Bon, on est très étonnés quand même.
Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec cet inévitable retour sur les 24 heures du Mans 2023, l'édition du centenaire de la classique sartoise. Édition du centenaire, course du siècle avec cette victoire de la Ferrari numéro 51 et Ferrari qui a donc battu Toyota, quintuple vainqueur en titre des 24 heures du Mans. Stéphane, c'était presque le scénario rêvé avec les deux Ferrari en première ligne après les qualifications. Pour moi, je l'ai dit dans le podcast la semaine dernière, les Toyota restaient favorites, mais ça a été une course absolument phénoménal.
Ouais, et en termes de timing, c'est juste magique quand même. Et il faut féliciter l'ACO qui a mené des discussions pendant des mois, des années avec les constructeurs potentiels pour les faire revenir sur une base, un consensus autour d'un équilibre des performances. Et ça a très bien fonctionné. On a eu la période Covid et 2003, c'était le rendez-vous fixé par l'ACO, par
2023
par tous les constructeurs. Et ils étaient là, ils étaient présents, ils étaient tous prêts. C'est ça qui est complètement incroyable. Et là, il y avait 16 voitures en hypercar prêts à se battre aux premières places. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que toutes les équipes d'usine ont mené la course. Peut-être de façon rapide parfois, mais en tous les cas, il y a eu un turnover absolument hallucinant en tête de la course. Il y a eu un suspense ébouriffant. C'était juste génial. C'était la course dont on rêvait et je crois même qu'on a dépassé ses attentes.
Oui, clairement, parce que alors je sais qu'au bout de 3-4 heures de course, je suis allé voir les gens qui travaillent dans une société qui s'appelle InfoCourse et qui produit toutes les statistiques sur les 24 heures du Mans. Et au bout de 3-4 heures, on était déjà à plus de 20 dépassements de changement de leader.
Ouais,
de changement de leader. Il y en avait eu 11 il y a 2 ans. Je ne sais pas à combien on a abouti à la fin parce que les 24 heures se sont terminées il y a quelques heures à peine et qu'on a essayé de dormir un tout petit peu. Mais c'était complètement fou, honnêtement.
Alors, on en a pris pour quelques années parce que On remet un petit peu les choses dans leur contexte. C'est vrai que les 24 Heures du Mans au 21e siècle, c'était une affiche avec un constructeur, deux, exceptionnellement trois. On a eu des années, toutes ces années Audi, qui engageait des équipes privées. Alors le suspense, c'était est-ce que c'était l'Audi Go, l'Audi Champion ou l'Audi Velox qui allait gagner. C'est un petit peu limité, on va dire, mais il y avait de la bagarre devant, mais ça a tout tourné autour d'un constructeur. On a eu les années du duel Peugeot-Audi de 2007 à 2011, ça c'était passionnant. On a eu une lutte à trois pendant trois ans quand même, 2014, 2015, 2016, Audi-Toyota-Porsche, ça c'était génial. Et puis là quand même maintenant on a six usines, ça c'est fantastique, plus Van Wall et Glickenhaus. Et on s'est régalé et on sait qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Et... le principe même de la balance des performances sur laquelle s'étaient accordés les pilotes fonctionne très très bien, je trouve. Et puis ça a commencé par une pole position record en moins de 3,23. C'était hallucinant, quoi.
Ouais. Non, mais il y a eu un rythme, il y a eu tout. Alors pour en revenir à la BOP, Stéphane, elle a pas mal fonctionné parce que clairement ça a été très très serré. Ce qui a posé problème, je le dis et je le répète, c'est que Toyota finalement n'a pas caché son jeu depuis le début de la saison, a vraiment donné tout ce que pouvait donner cette GR010 hybride. Et que quelque part, on a le sentiment qu'ils ont été sanctionnés d'avoir vraiment montré tout leur potentiel, alors qu'on leur avait dit qu'il n'y aurait pas de changement de balance de performance avant les 24 heures du Mans.
Oui, alors le pouvait-il, avec la même voiture que l'année dernière, la FIA a déjà toutes les datas pour organiser l'équilibre des prestations. Donc, tu caches ton jeu, tu tournes à 2 secondes des tours, on dit, bon, ils en mettent un petit peu, ils en ont un peu sous la pédale. Donc, ils ont effectivement montré de quoi la voiture était capable, ils ont remporté 3 victoires, et c'est vrai qu'ils sont devenus la cible numéro 1 de la BOP.
Ouais, 3 victoires. Alors, cette saison. Ouais.
Je précise une chose, l'année dernière, c'est que Alpine avait eu une BOP assez intéressante avant la qualification, parce qu'il fallait mettre l'affiche en place, je dirais, Toyota contre Alpine, qui venait avec une LMP2 qui venait sur le terrain de l'hypercar, et il fallait un petit peu organiser ce duel et montrer que Alpine était capable.
C'était une vieille LMP, hein, pas une LMP2.
Et Alpine s'était fait sanctionner après la qualification, c'est-à-dire on voulait se faire un petit peu jouer en qualif, oh là là, attention, ils sont en train de faire peur à Toyota, et puis Toyota avait bénéficié d'un poids supplémentaire mis sur l'Alpine, et ça avait fait grogner chez Alpine. Donc bon, quand t'es le favori, t'es le cible de la BOP, mais les poids des Toyota et des Ferrari étaient quand même assez équivalents. On rajoute 37 kg à Toyota, 24 kg à la Ferrari, elles étaient déjà proches en poids. Je ne sais pas si ça a énormément joué. On a vu une chose, c'est que ça s'est joué sur les pilotes à la fin. Et c'est ça qui est le plus important.
Ça, c'est vrai.
On a eu une course de pilotes, voilà, avec quelques incidents, c'est vrai, mais c'est là-dessus que ça s'est joué, avec un duel à la fin. C'était fou, c'était génial.
Ouais, le bras de fer là sur la fin de course avec un Ryo Hirakawa qui a quand même été un petit peu en difficulté. D'abord au niveau du chrono sur les relais précédents par rapport à ses adversaires, c'est lui qui fait la faute finale en sortant à harnage. Alors, il fait la faute, et en même temps, on avait déjà prévenu Brandon Hartley sur le relais précédent de faire attention aux phases de freinage sur le train arrière. Je pense qu'on avait déjà détecté, parce qu'on voit, hein, les roues arrière, elles se bloquent pour Hirakawa.
Il a dit qu'il avait deux alertes, c'est pas une grosse faute en même temps. Hein.
Non, mais après, on lui a dit, il faut rouler en moins de 3,30, donc on a assumé finalement le fait d'avoir mis la pression sur le pilote japonais en se disant, il faut y aller, et ça passe ou ça casse.
Petite cause, grands effets, harnage, c'est le virage le plus long du circuit.
Oui, mais c'est souvent les plus difficiles en mono. Quand tu es dans des autos qui génèrent beaucoup d'appui, les virages les plus lents sont les plus difficiles. Ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre pour les gens qui ne font pas de compétition avec des voitures qui génèrent de l'appui. Mais là, on se retrouve finalement sur une voiture lambda. Et c'est toujours ceux où l'équilibre de la voiture est le plus précaire. Et on a assumé ça du côté de chez Toyota. Nous, personnellement, qui commentions la course, on était persuadés qu'on allait remettre Sébastien Buemi pour faire le dernier relais, pour succéder à Brandon Hartley. D'abord parce que Hirakawa avait été un petit peu en difficulté, parce que Buemi est déjà un quadruple vainqueur, qu'il a l'expérience, que c'est un combattant.
En face, il y a Giovinazzi. Hein.
Voilà, voilà, oui, il faut mettre du lourd. Et j'ai le sentiment qu'on l'a vu sur les écrans, le moment où Sébastien Buemi a appris qu'il ne ferait pas le dernier relais. On connaît son visage, on l'a eu plusieurs fois en invité dans Les Fous du Volant, c'est un garçon charmant. Sur la piste, c'est un tueur, Sébastien Buemi. Il a toujours ce visage quand il est en course, qui n'est pas du tout celui de la vie de tous les jours. Et là, à un moment, il était à côté de Pascal Vasselon, il s'est retourné et il avait plus le visage du combattant. Je pense que c'est le moment où on lui a dit qu'il ferait pas le dernier relais. Je pense qu'il a dû aller proposer ses services.
Oui.
Et qu'on lui a dit non, on laisse Ryo Hirakawa parce que Toyota.
Sans lui faire injure, évidemment, Hirakawa, c'est pas Buemi.
Non, c'est un bon athlète, pilote, mais c'est pas Buemi, c'est pas athlète, c'est clair.
Quand tu veux l'envoyer au combat pour récupérer une quinzaine de secondes en moins de deux heures, c'est vrai que t'envoies plutôt le Suisse ou athlète. Alors, le petit, la réponse, elle est peut-être dans son CV, tout simplement, de ce garçon qui a été pilote de GT, qui n'a pas eu de formation en monoplace, qui n'a pas été habitué à ces catégories quand même assez exigeantes. Il a fait du Super GT au Japon de 2014 à 2018. Et puis ensuite, il est passé à l'endurance. Alors, il a remporté les 24 Heures du Mans en 2022, mais il n'y avait pas une énorme pression, c'était une lutte interne. L'an dernier,
ouais, mais
Toyota,
il avait le rythme, hein, clairement.
Mais là, il fallait quand même hausser son niveau de jeu. Et ça a été un petit peu difficile pour lui. On répète, l'erreur n'est pas énorme. Mais c'est vrai que chez Toyota, il y avait peut-être la tentation de la tradition, on va dire.
Eh oui.
Si on regarde sur les 5 succès de Toyota, de 2018 à 2022, à 4 reprises quand même, c'est un pilote japonais qui effectue le dernier relais.
Eh oui, qui franchit le drapeau à damier à bord d'une voiture japonaise.
C'est logique, de toute façon, quand tu es un constructeur japonais, tu veux ça sur ton affiche, parce que c'est la photo qui fera la une de la presse spécialisée des journaux le lendemain.
D'ailleurs, si tu notes, cette année, c'est Alessandro Pierguidi qui a franchi la ligne d'arrivée
Exactement,
pour Ferrari.
Et puis Foucault était dans l'autre voiture.
Il n'est pas japonais, Ferrari, hein, Pierguidi.
Tout à fait. et donc, c'était Nakajima de 2018 à 2018. 2020, et puis c'était Kobayashi en 2021, c'est peut-être pas juste une coïncidence, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu peur pour lui, et on lui a demandé un dépassement de fonction, il n'a pas été capable d'aller au bout.
Alors on a donné un autre argument aussi du côté de chez Toyota, c'est qu'il y avait eu plusieurs avertissements pour Sébastien Buemi pour dépassement des limites de la piste, et qu'il était exposé à une sanction, situation dans laquelle n'était pas Ryo Hirakawa au moment de prendre ce dernier relais. Alors, dans l'absolu, c'est un bon argument, sauf qu'il vaut peut-être mieux un Sébastien Buemi exposé à une pénalité, quitte à prendre la pénalité en se disant la pénalité est tombée, ça y est, c'est fini, plutôt qu'un Ryo Hirakawa qui était vraiment en difficulté avec cette voiture. Je pense que les 37 kilos, quand même, il faut avoir une certaine expérience pour réussir à s'adapter aussi vite. Hein. Le changement de la BOP, il est intervenu, je crois, 11 jours avant les 24 heures du Mans. Ça veut dire que il n'y a pas le temps de se retourner. Ça y est, les essais libres sont là et il faut s'adapter.
Ouais.
Et quand on s'appelle Sébastien Buemi, quand on s'appelle Brendan Hartley, on est sans doute capable de s'adapter plus vite qu'un Ryo Hirakawa. C'est pas infamant de dire ça. Et là, ça, c'est ce qui a fait la décision. C'est un tout petit détail. Et dans ces courses-là, les victoires ou les défaites se jouent à un détail.
Oui, en tous les cas, on est content pour Toyota parce qu'on leur a fait un mauvais procès. Il y a eu des commentaires de gens qui ne connaissent peut-être pas l'endurance ou les conditions.
C'est des raccourcis.
L'investissement qu'ils ont mis dans cette course, et puis ils se sont retrouvés à partir de 2018 le seul grand constructeur. Ils n'y pouvaient rien.
Ouais, la faute aux autres, pas à eux.
Ah, mais bien
eux,
sûr.
Ils sont restés sur le terrain. Ils ont
été accusés peut-être par d'autres adversaires qui étaient là sur la piste d'avoir gagné un petit peu facilement, mais ces adversaires eux-mêmes n'étaient pas sur la piste ces années-là.
C'est un petit peu de la même manière qu'on dit « Ouais, Michelin, ils ont gagné les 24 heures du Mans, c'est facile, ils sont les seuls. » Qu'un autre, manufacturier vienne, et puis on verra. Et si un autre manufacturier vient et bat Michelin, ok, très bien. C'était exactement la même chose. Et ils terminent quand même, ils ont repoussé Ferrari vraiment dans ces derniers retranchements. Ils ont résisté à Cadillac. Il y a eu quand même d'autres déconvenues, hein, parce que il y a quand même de la satisfaction du côté de Cadillac qui, qui installe une voiture sur le podium et qui met une autre voiture en quatrième position. On est content chez Peugeot parce que
on a une petite photo.
On a ah ça le patron Carlos Tavares qui fait une photo du classement au moment où la Peugeot est en tête. Non, c'était incroyable. Ouais. Alors il faut pas se voiler la face du côté de chez Peugeot. Ça s'est bien passé. Il y a quand même eu des problèmes techniques sur la fin sous la pluie. La voiture, elle est phénoménale. Gustavo Meneses, il a tourné autour de ses adversaires sous la pluie. Voilà. Il ne faut pas voiler la face. Il y a des choses à corriger pour la saison 2024. Mais on voit qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une sorte de choc psychologique. Voilà, il faut continuer à travailler, mais qu'il y a des choses possibles dans la Peugeot.
Oui, malheureusement, ce sont des fautes de pilotage, mais des petites fautes, là encore, qui mènent à des grandes conséquences pour Jev.
Oui, qui est sorti de la piste, et puis pour Gustavo Meneses.
Dans des conditions particulièrement difficiles.
Et Meneses aussi, mais c'est normal. Là, à ce moment-là,
qu'ils sont à fond aussi.
Oui,
parce que la voiture n'est pas facile à maîtriser dans ces situations-là. C'est sous la pluie ou
et puis qu'il fallait y aller.
De nuit.
C'était l'occasion, vraiment.
Il fallait y aller crânement, ils y sont allés crânement.
Clairement.
C'est sans regret.
Oui.
Ils ont fait un beau spectacle. C'était incroyable. Comme en tête, ils ont tenu quand même un petit moment en tête. Je dirais que tout le monde est assez satisfait. Il y a peut-être juste chez Porsche la copie est un petit peu à revoir parce que c'est un petit peu moyen. Pourtant, ils étaient venus avec une armada de 4 voitures.
Oui, c'était eux qui avaient le plus grand nombre d'engagés.
Tout à fait. Et là, je me disais, si les incidents se multiplient, s'il y a des fautes de pilotage, c'est eux qui vont ressortir.
Oui, sauf qu'ils ont en fait
historique.
Ils ont tout eu. Porsche, ils ont eu les fautes de pilotage pour certaines voitures. Ils ont eu des problèmes de fiabilité aussi. Et puis quelques coups de pas de chance non plus. Enfin, honnêtement, pour Porsche, c'était le 75e anniversaire de leur participation aux 24 heures du Mans. En tout cas, c'était un 75e anniversaire. Ouais, c'est ça. Et ça ne l'a pas fait. Pas du tout, et je pense qu'il va falloir que Porsche revoie sa copie, peut-être en s'écartant du... vous savez qu'en hypercar, donc la catégorie Rennes aux 24 heures du Mans, il y a 2 sous-catégories, les LMH, les voitures qui sont vraiment fabriquées par les constructeurs, c'est le cas de Toyota, c'est le cas de Ferrari, c'est le cas de Peugeot, et puis il y a une catégorie LMDH, où on peut recourir à des châssis qui sont fabriqués par des vrais constructeurs de châssis, Multimatic, Dallara, pour n'en citer que deux. C'est la solution, et puis avec un système hybride qui est commun à tous ceux qui choisissent cette catégorie LMDH, et c'est la solution qu'avait choisi Porsche. J'ai été un petit peu surpris. Porsche, recordman des victoires aux 24 heures du Mans avec 19 succès. Ah, normalement, on doit venir avec sa propre voiture. Voilà, c'est décevant à double titre, et faudra revenir pour se venger l'année prochaine.
Alors, petite précision, c'était le 75e anniversaire des voitures de sport.
Oui, voilà. Je savais bien qu'il y avait une histoire
Alors,
comme ça.
Alors, effectivement, tu parles de cet engagement LMH ou LMDH, c'est-à-dire c'était les deux options. On achète un châssis homologué et puis on l'habille après, moteur, etc. Ou alors on construit tout de A à Z, et je trouve que c'est ça aussi la grande satisfaction. Ferrari a été fidèle à son image en construisant une voiture de A à Z, en prenant des pilotes italiens. Et ça, c'était aussi très, très important, l'identité italienne.
Et de GT. C'est-à-dire qu'ils ont pris les pilotes qui ont été sacrés champions du monde. James Calado, il n'est pas italien. Alors, pour le coup, je crois que James Calado, en plus, il a une partie de sa famille qui doit être portugaise, quelque chose comme ça. Mais c'est des pilotes qui ont été champions du monde en GT et qui sont montés en catégorie Rennes avec leur équipe. Ce qui est génial. Ce qu'avait fait aussi Porsche, d'ailleurs.
Oui. Mais John Elkann, le président du conseil d'administration de Stellantis, le président de Ferrari, surtout, a dit c'est une satisfaction d'avoir 2 pilotes italiens dans la voiture gagnante. Ça aussi, c'est important. Et on sait que Ferrari et les pilotes italiens en F1, c'est une histoire un petit peu compliquée. Et là, ça ouvre quand même un champ de possibilités pour des pilotes italiens qui sont dans des catégories Formule 3, Formule 2, qui rêvent peut-être à la Formule 1, qui n'iront peut-être pas, mais qui pourront toujours se dire, mais je peux gagner les 24 heures du Mans avec Ferrari.
Avec une voiture italienne. Donc, il n'y a pas de pilote de Formule 1, il n'y a pas de pilote italien en Formule 1. Ça, c'est quand même, c'est quand même une hérésie.
D'ailleurs, c'était Giovinazzi,
oui, clairement,
qui était pilote poussé par Ferrari. Ça n'a pas abouti. Mais maintenant, il y a quelque chose d'assez authentique, de rafraîchissant. Et comme je le disais, Ferrari a gagné devant toute cette meute, alors qu'on a eu pendant des années un, deux ou trois constructeurs. Là, ils ont gagné vraiment contre un superbe plateau, tapis rouge pour Ferrari. Il y avait quelque chose d'assez émouvant, parce que il y a plein de supporters de Ferrari qui n'ont pas connu Ferrari au Mans.
Ah oui, oui.
Dans la classe N.
Je suis pas supporter de Ferrari plus que des autres, mais moi, j'avais jamais connu Ferrari jouant le classement général au Mans. Hein.
Oui. Donc là, maintenant, c'est parti quand même pour quelques années. Je trouve ça incroyable même d'avoir eu ce réflexe de dire AF Corse connaît bien la course, l'endurance. On ne va pas faire l'erreur de tout reprendre, d'essayer de tout créer de A à Z à Maranello. On laisse ça à Piacenza, base d'AF Corse. Ils connaissent l'endurance depuis 20 ans. Ils ont réussi plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois vainqueur des 24 heures du Mans en GT.
Ouais.
Et là, ça marche bien, la chimie.
Et là, tu mets le doigt sur vraiment, sans doute, la clé de la réussite chez Ferrari. C'est qu'il y a eu le bon équilibre entre la compétence en termes de création de l'auto qui a été faite à Maranello, et ensuite on la confie à la structure qui sait faire l'exploitation, qui sait gérer les pilotes, qui sait gérer les conditions de piste.
Le directeur technique, la stratégie, est issu de AF Corse. De la Scuderia Ferrari. Là, c'est AF Corse qui a gagné. Ça n'a rien à voir entre guillemets avec la Scuderia Ferrari. Alors bien sûr, il y a eu un soutien en termes de design,
bien sûr,
d'études,
c'est sûr,
de la maison mère, hein. C'était une évidence quand même, parce que c'est un programme officiel, mais autrement ils ont tout fait comme des grands. Bon, et franchement, j'avais dit mon doute par rapport à ce challenge des pilotes de GT. Alessandro Pierguidi, je crois qu'il a 39 ans,
donc
c'est
39
plus
ans.
Non plus un perdre de l'année,
il
a tenu le choc. Il a même dit, moi j'ai été le plus rapide dans les conditions difficiles sur le mouillé. Et c'est Antonio Fuoco qui signe la pole position. Et ben dans tout ça, Giovinazzi, il n'a pas montré sa pointe de vitesse. En tous les cas, il n'a pas réussi à le faire. Lui, l'ancien pilote de Formule 1.
Ouais, il avait été très très performant, Giovinazzi, à Spa. Alors ça ne s'était pas vu parce que c'est Toyota qui avait gagné. Mais Alessandro Pierguidi, il a une histoire incroyable. Parce que l'année dernière, en 2022, donc, c'est lui qui ramène le titre en GTE Pro, le dernier titre du GTE Pro à Ferrari. En faisant la dernière course, les 8 heures de Bahreïn, il fait un dernier relais avec une boîte de vitesse cassée. Là, on est déjà prêt à recueillir la voiture dans les stands et en disant on a perdu face à Porsche en plus. Ce qui aurait été vraiment le comble de la défaite pour Ferrari. Et il a fait un dernier relais incroyable avec une boîte de vitesse cassée. On ne sait pas comment il a fait, mais il arrive à aller jusqu'à l'arrivée, il a marqué les points pour le titre. C'est lui qui a l'honneur de faire les premiers tours de roue de cette 499P quand elle sort de l'usine. Ouais, je crois que c'était début août.
Non, 5 juillet 2022.
Voilà, et voilà. C'est lui qui passe la ligne d'arrivée le premier avec cette voiture. L'histoire, elle est incroyable. Et Ferrari a eu franchement tout bon dans cette histoire, et ça fait une édition, voilà, l'édition du centenaire, qui est la course du siècle sans doute en endurance.
Oui, alors un petit point d'amélioration, je dirais, sur la gestion de cette course, parce qu'il y a eu des longueurs. Hein.
Je vois où tu veux en venir, les safety cars.
Tout à fait, deux safety cars. Et je pensais à ça, LeBron James donne le départ. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à un autre public, les réseaux sociaux, un public jeune. Et on travaille juste là la notoriété, parce qu'on ne va pas non plus mettre des jeunes 24 heures devant leur télé d'un seul coup comme ça. Mais ils vont se dire, tiens, si LeBron James vient là, c'est qu'il se passe quelque chose d'important, et que c'est une compétition top class. Voilà. Donc on a amené un nouveau public, et puis on voit 2 heures de neutralisation dans les 4 premières heures. Si le jeune public regarde ça, mais il attend, il se dit, mais c'est ça les 24 heures du Mans. Et je trouve qu'en termes d'image, c'était assez délicat.
C'était une nouvelle procédure. Clairement, elle n'a pas donné satisfaction. Il faudra revoir ça. Jetons pas le bébé avec l'eau du bain.
À chaque fois, les choses ont été faites dans l'ordre.
Ouais.
Selon la procédure définie qui a pris un peu plus de temps, mais il fallait faire les choses bien. Ils ont fait les choses bien. Maintenant, est-ce qu'il faudra vraiment réunir toutes les voitures derrière une seule safety car? C'est la question un petit peu qu'on se pose. C'est ce qui permettrait de gagner un peu de temps. Mais autrement, les conditions étaient très, très délicates à un moment. Ils l'ont géré au mieux. Et il y a des concurrents qui se sont retrouvés quand même en slick sur le mouillé.
Ah oui, mais ça fait partie de la course.
Et sur une partie du circuit qui était mouillée, l'autre qui était sèche.
C'est les 24 heures du Mans, et ça fait quelque part, ça fait partie de la course, ça fait partie des risques. Si on conteste ça, il faut contester les sports mécaniques et faut contester l'existence de la pluie d'ailleurs.
Et puis. Dans tout ça, on a relevé quand même, je ne sais pas justement si les statisticiens qui faisaient les relevés que tu as pu voir, on comptabilisait déjà si le nombre d'abandons était important, mais à la fin des 24 heures, il y a quand même 22 abandons. C'est un taux quand même assez fort par rapport à 62 ouais. équipages hein, engagés. Ouais. Et on voit que ça se répartit pour 3 abandons non hypercar sur les 16 voitures engagées, ça fait 5%. Simplement de déchets, on va dire. En LMP2, c'est 7 abandons sur 24 voitures. Donc, on monte à 29% quand même. Et puis, en GT AM, c'est 12 abandons sur 21. Ça fait 57% quand même d'abandon. Et c'est peut-être là qu'il faut regarder un petit peu plus près aussi sur la préparation, parce qu'il y a eu des incidents. Alors, il y a eu l'élimination d'une Toyota quand même dans une collision collective sur une slow zone. On s'est dit, voilà, à l'antenne d'Eurosport, Eric Hellary a dit, voilà, il faudra quand même revoir ça parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi ?
Je ne sais pas trop, peut-être simplifier les procédures, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les procédures au Mans sont quand même spécifiques, qu'il y a des gentleman drivers qui sont là, et que parfois, ils sont un petit peu perdus. Et c'est ce qui a provoqué l'abandon de la Toyota numéro 7, hein, qui ralentit pour ne pas doubler une voiture dans une zone, dans une zone qu'on appelle de next slow zone, où on n'a plus le droit de dépasser. Et en fait, derrière, on est surpris avec des GT et on vient percuter la Toyota. C'est ce qui a provoqué l'abandon de cette voiture. Sébastien Bourdais a lui aussi été victime d'une situation un petit peu comparable. J'ai envie de dire, ça fait partie de l'ADN des 24 heures du Mans d'avoir des pilotes amateurs qui côtoient les meilleurs pilotes du monde. Ça fait partie de la difficulté, ça fait partie de la beauté de la chose. Ces pourcentages, moi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie logique. En hypercar, il n'y a pas de pilote amateur, il y a 5% de perte. En LMP2, il y a des pilotes qui sont beaucoup plus chevronnés. Il y a aussi une catégorie LMP2 amateur. Donc là, il y en a quelques-uns qui se sont fait piéger, mais je pense qu'il y a des pros qui se sont fait piéger aussi dans l'histoire. Et puis en GTAM, là, comme son nom l'indique, il y a aussi des amateurs. Pour moi, ce n'est pas des pourcentages
qui... Je te rejoins sur l'hypercar, effectivement. Un garçon comme Alessandro Pierguidi a dit « J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans le noir. » Au simulateur Ferrari, pour refaire les procédures, apprendre le fonctionnement de la voiture, et puis toutes ces... alors, qu'il connaissait déjà,
oui.
Mais
il faut que ça devienne instinctif.
Qui arrive beaucoup plus vite quand même au volant d'une hypercar, où les délais de réaction ou de décision sont quand même beaucoup plus courts. Et ces gens-là, c'est vrai, sont très, très préparés. Alors, qu'est-ce qu'on pourra y faire ? L'an prochain, la catégorie GT sera différente. On aura une catégorie LM GT3.
Oui, c'est ça. Alors, ça ne sera pas une catégorie LM GT3, ça sera GT3 tout court, justement pour ouvrir à tous les constructeurs qui n'ont pas de voiture, qui répondent aux spécifications Le Mans. Et qui seront donc là, on va se retrouver avec des constructeurs qui vont venir, qui ont des GT3 et qui ne sont pas aujourd'hui, au Mans. Donc, ça va être fabuleux. Il y aura toujours des gentleman drivers et il faudra s'y adapter. En revanche, il y aura plus de constructeurs en hypercar. Il va y avoir Lamborghini qui va arriver, il va y avoir Alpine, il va y avoir BMW, il va probablement y avoir Acura. Donc, ça sera des pilotes professionnels qui viendront dans ces autos.
Jusqu'à 24 voitures
minima.
Oui. Et éventuellement avec peut-être une troisième ou une quatrième, même Ferrari engagée par
structure. Donc, privée. Mathématiquement, il y aura un petit peu moins d'amateurs. Mais c'est un débat qu'il y a aussi sur les courses d'endurance en moto. Et pour moi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du charme de l'endurance d'avoir cette mixité sur la piste. Et ça permet de voir à quel point c'est difficile d'être un pilote professionnel et de voir, on a parfois des pilotes amateurs avec des pneus pluie qui sont plus en difficulté sur le mouillé que des pilotes professionnels avec des pneus slick. Et c'est là qu'on se dit, ils sont vraiment phénoménaux. Et il faut que ça reste comme ça. Honnêtement, il faut revoir le protocole sur les neutralisations de course. Voilà, on apprend en faisant. Mais pour le reste, honnêtement, toucher plus à rien, on est pas mal.
Ah ben là, on est bien pendant quelques années. Alors, cette édition du centenaire, elle est toute unique, donc elle est irremplaçable. Ce qui est fabuleux,
ça peut être mieux l'année prochaine.
Ferrari l'a remporté, et les spécialistes, parmi les spécialistes d'endurance, beaucoup considèrent que c'était l'édition de 1965 qui était la course du siècle, au XXe siècle, je dirais.
Donc, moi, je ne l'ai pas vu, alors je ne peux pas voter.
Ferrari, c'est incroyable, mais c'est dingue de se dire justement qu'avec ce renfort, c'est arrivé de nouveaux constructeurs. La course du siècle du 21e siècle au Mans, c'est peut-être la prochaine, c'est peut-être celle de 2024.
Ouais, je sais pas. Moi, 98, ça m'avait bien plu aussi, mais c'était au siècle dernier également. On va s'arrêter là quand même, parce qu'on a un invité qui nous attend. Justement, on va revenir sur les 24 heures du Mans avec notre invité. Alors, dans ce deuxième acte des Fous du Volant aujourd'hui, Stéphane, on reçoit un nouvel invité, un nouveau membre de la confrérie des Fous du Volant, en la personne de Cédric Voisard, qui est désormais donc consultant en communication, mais qui a longtemps été un des meilleurs journalistes spécialisés en sport mécanique, parce qu'il faisait non seulement la Formule 1, mais il faisait aussi le championnat du monde des rallyes. On s'est croisé sur quelques zones d'assistance en rallye avec Cédric. C'est aussi un ancien d'Eurosport, parce qu'il avait participé à l'époque à Autocritique et à Dimanche F1. On est ravis de te retrouver parmi nous, Cédric, bonjour.
Bonjour à tous, ravi de vous rejoindre.
Désormais, je le disais, consultant, producteur de contenu, comme on dit, et qui produit depuis quelques temps maintenant des insiders au sein de la Scuderia Ferrari, enfin de chez AF Corse en championnat du monde d'endurance. T'as dû passer un bon week-end et une bonne soirée de dimanche après ces 24 heures du Mans remportées par Ferrari.
Oui, c'était fort, c'était intense et beaucoup de gens heureux et très heureux d'être avec eux, mais beaucoup de gens heureux, beaucoup de câlins, beaucoup de bienveillance les uns avec les autres. C'était une joie. Team building naturel qui était très sympa à vivre, oui. Ouais.
Et on a vu tout l'état-major de Ferrari présent, hein, John Elkann. Il y avait aussi la branche F1 avec Fred Vasseur qui était là, avec Charles Leclerc. Est-ce que c'est aussi une sorte de cure de jouvence pour Ferrari qui peine un petit peu en ce moment en Formule 1 et de venir se ressourcer, de redorer son blason en préparant ce podcast avec Stéphane? Il avait utilisé cette expression et je trouve que c'est vraiment une belle expression.
Oui, après, on peut assez facilement scinder les choses. Pardon. L'événement pour Ferrari, il est exceptionnel. C'est-à-dire que le président de la marque, de l'entreprise, vient, il est sur la grille, ces deux voitures occupent la première ligne. 24 heures plus tard, victoire. Donc, partant de là, l'opération devant le président de la compagnie, elle est exceptionnelle. Elle est sportivement exceptionnelle et elle est d'un point de vue marketing et interne exceptionnelle. Donc des gens comme Antonello Coletta, qui dirige tout ce qui n'est pas Formule 1 mais qui est sport chez Ferrari, évidemment pour lui ce qui est une réussite technique, et Ferrari, mine de rien, l'ADN technologique de Ferrari, c'est important. Donc là, c'est les équipes de Ferdinando Canizzo, ils ont quand même sorti, vous le savez aussi bien que moi, une voiture assez extraordinaire, elle est belle, elle est performante, et sa quatrième course, les 24 heures, elle est très bien conduite, très bien exploitée, ça se passe bien. Alors après, Fred Vasseur, Charles Leclerc, tout ça, écoutez, il y a un côté famille aussi, il faut voir Fred Vasseur au calme chez Ferrari, là, pendant les 24 heures, et qui fait des câlins à Foucault parce qu'ils se connaissent, tout ce monde-là se connaît. Est-ce que ça met une pression sur la Scuderia? Je crois que la Scuderia et Frédéric Vasseur n'ont pas besoin qu'on leur mette la pression. C'est très bien pour leur boîte, je pense. Hein. Non, c'est.
Bon
Ça ne met
esprit,
pas de pression. Oui.
Stéphane.
Cette victoire, quelque part, elle achète un petit peu du temps à Fred Vasseur, parce que ça fait retomber quand même la pression. Les tifosi sont en attente depuis 2008 d'un titre mondial en Formule 1. Et puis là, c'est le retour par la grande porte quand même en endurance. On attendait ça tous, parce qu'on est tous quelque part aussi fans de cette marque. C'est un pilier du sport automobile. Les temps sont un petit peu difficiles encore en Formule 1 parce que Fred Vasseur est en train d'organiser son équipe pour retrouver un second souffle après les années Binotto. C'est un soulagement. Et dans tout ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Ferrari, surtout, a respecté son ADN en venant avec une voiture construite intégralement, une LMH. Et ça, c'est quelque chose de très, très important dans l'histoire de la marque. Et puis, ils ont pris l'équipe de GT qui l'a représenté officiellement aussi. Donc ils ont fait, je dirais, les choses bien. Ils ont pris des pilotes du cru. Ferrari reste plus que jamais Ferrari.
Oui, clairement, oui. Après, le sujet d'organisation, la réorganisation, je ne sais pas, par Fred Vasseur de la Scuderia, voilà, ça se passera bien. Je crois qu'il a besoin de temps, je crois qu'il sait ce qu'il a à faire et que sa visite au Mans ou que ce qui s'est passé au Mans, il n'a pas besoin de pression, quoi, il en a suffisamment.
Est-ce
Voilà,
que,
je pense
est-ce qu'à l'inverse,
qu'il
ça
aime
peut lui
il aime la
enlever de la
course. Non,
pression?
mais franchement, il aime la course. Lui enlever de la pression, je ne sais pas, mais Ferrari, c'est faire des voitures. C'est-à-dire que là, c'est très exposé, c'est la catégorie reine. Mais vous prenez le palmarès de Calado et Pierre Guidi en GTE Pro, ils sont champions du monde en titre. Bon, voilà, Ferrari faisait le boulot en GT, aucun doute là-dessus, quoi. Fabriquer des voitures qui vont vite et qui gagnent, ils savent faire. Après, la Formule 1, bon, les paramètres sont nombreux. Oui, effectivement, il y a une période de disette, mais voilà. À part travailler, trouver l'alchimie entre les gens, parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Le talent, c'est une chose, mais il faut que tout le monde s'aime et fonctionne bien ensemble. Ça peut prendre du temps. C'est pas
Petite
le sens
question,
exact. Hein.
petite question. Alors, on a vu effectivement, comme le disait Stéphane, qu'on a recruté les pilotes en interne. Hein. On a fait monter
Ouais.
ceux du GT en catégorie hypercar. Est-ce qu'on aurait pu avoir, est-ce qu'on, à un moment, a été envisagé l'hypothèse de faire débarquer Charles Leclerc et ou Carlos Sainz dans les équipages des voitures engagées au Mans, où ça a absolument jamais été mis sur la table?
Eh bien, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais absolument rien. Voilà, est-ce que Charles Leclerc, alors est-ce qu'il émet l'envie, ça me paraît assez naturel. Comment Ferrari pourrait se positionner par rapport à ça? Bon, je crois qu'il y a des problèmes, ils peuvent avoir des problèmes plus graves, hein, ce sont des problèmes de riches.
Ah oui, ça c'est clair.
Mais ça pourrait être très sympa. Ouais. Mais après, je ne suis pas. Autant sur un week-end de course, bah voilà, je suis beaucoup avec eux, je participe à beaucoup de choses, on a la chance d'être intégré à leur équipe. Bon, autant ce qui se discute à côté, on n'est pas là. Donc, j'en sais rien. Mais j'espère que chez Charles, l'envie est là.
Ah oui, ça il l'a dit. Il l'a même dit au micro d'Eurosport. Donc ça, là-dessus,
Ouais.
on en est certain.
Ça fait mon
Non, mais la
cœur.
vraie envie, vous voyez, la vraie envie, puisqu'un pilote qui vous dirait, oh non, je trouve ça pourri comme course, ça n'existe
Non.
pas.
Non.
Mais de là à dire, oui, évidemment, j'ai envie. Bon, voilà. Après, c'est tout autre chose qu'en interne, d'aller voir Frédéric Vasseur, Antonello Poletta, et leur dire, est-ce qu'on peut y réfléchir ou pas? Est-ce que c'est compliqué? Et puis, voilà, on verra ce que ça donne. C'est pas toujours simple.
Ça supposerait d'ailleurs de sortir un pilote des deux équipages qui ont été particulièrement méritants. Mais on a Antonello Conetta a répondu à la question de l'engagement de 499P privé
À
à
l'avenir.
court ou moyen terme à l'avenir. Ça, c'est en début de saison. Il a dit pour l'instant, nous, on a les deux voitures de l'usine. On verra après si on a des engagements. Alors, il n'avait pas parlé d'une troisième ou du quatrième voiture privée, mais c'est peut-être par ce biais-là qu'on pourrait voir des pilotes de Formule 1 intégrer ces équipages-là. Mais alors, je dirais que est-ce que Ferrari maintenant n'est pas devenu le garant en fait d'un équilibre, d'une harmonie entre la F1 et les 24 heures du Mans et le WEC, on se souvient, pendant les années de gouvernance Bernier-Ecclestone, qu'on avait en face des 24 heures du Mans quasi systématiquement un Grand Prix du Canada parce qu'ils ne voulaient pas que les pilotes de Formule 1 aillent au Mans. Alors maintenant, en fait, Ferrari a eu son week-end, son temps fort, et on est tous d'accord là-dessus, c'est vraiment l'idéal. Est-ce qu'à l'avenir aussi, Ferrari pourra dire bah, « Nous, maintenant, c'est comme ça, ça nous convient et on ne fait pas de clash entre la F1 et les 24 heures ?»
Oui, je crois que c'est un double programme qui les intéresse. Ils sont à la recherche perpétuelle d'éléments d'activation pour la marque. Le dispositif mis en place pour accueillir des invités, etc., était de grande dimension, de grande ampleur, des clients, des gens comme ça. C'est l'ADN, oui, la course, l'équilibre après d'un sport à l'autre. Sont deux disciplines assez différentes. Vous voyez devant la Casa Ferrari, qui est la structure où ils recevaient leurs guests ce week-end, il y a quand même une série limitée d'une de leurs voitures de route aux couleurs des autos de course. Donc, entre guillemets, commandable. Faut pas oublier, hein, Ferrari, ils sont là pour vendre des, comme les autres, bien sûr, mais vendre des voitures. Alors après, il faut le faire d'une certaine manière, quand on est Ferrari, mais ça reste le but. Et puis, effectivement, il y a une passion du sport. Voilà. On pourrait presque regretter qu'il ne fasse pas du double WRC aussi.
Hein. Ouais, ouais. Qui sait, ça viendra peut-être. Mais alors, Ferrari utilise, et logiquement, l'endurance pour essayer de vendre des voitures. Est-ce qu'on n'essayerait pas, là, du côté de chez Ferrari, de vendre, finalement, le programme endurance pour recruter un pilote F1? Je ne sais pas si tu as vu passer les déclarations, parce que je sais que tu rentrais chez toi aujourd'hui après un week-end un petit peu animé, bienvenue au club, mais les déclarations de Max Verstappen qui sont sorties sur un site où, en gros, il dit « Les gens me demandent si j'ai une équipe de rêve, je sais que Ferrari a une histoire unique en Formule 1 et c'est une équipe pour laquelle il serait formidable de courir. J'adore Le Mans et les courses d'endurance en général. » La fin de son contrat, c'est quand il aura 31 ans et il dit « À 31 ans, je serai en Formule 1 depuis très longtemps, mais je suis sûr que je serai encore capable de faire des grandes choses. » Est-ce que Ferrari pourrait pas utiliser finalement Le Mans pour attirer Max Verstappen en Formule 1?
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça se joue sur d'autres items. Après, il reste un truc assez spécial chez Ferrari. Donc, chaque pilote va avoir ses raisons de rejoindre Ferrari, mais on pense à Jean Alesi, au cours de sa carrière, il a la possibilité d'aller chez Williams, qui va briller, il fait un choix du cœur. Schumacher, qui s'est remis en question pour aller gagner avec Ferrari, c'est le programme monté avec Jean-Todd, et puis Rory Byrne et Ross Brawn, qu'il avait emmené de chez Benetton, faire quelque chose de difficile pour la marque qui n'est pas comme les autres. Je sais pas, il y avait beaucoup de rouge quand même dans les tribunes, j'ai trouvé ce week-end, comme il y en a dans toutes les tribunes des Grands Prix partout dans le monde. Il se passe un truc avec la marque. Après, ce que vous disiez, les non-clash sur les dates, etc. Oui, c'est plutôt intelligent, mais c'est vrai qu'il y a eu... Alors, Ecclestone, ce n'était pas à lui, les vainqueurs du Mans, donc il n'allait pas les aider. Et puis, de toutes les façons, il y avait un antagoniste, il y avait... une difficulté à s'aimer entre la FIA et le Community Club de l'Ouest,
ouais.
Qui sont des problèmes qui ont été résolus pour le bien de tous, parce que c'est Le Mans fait partie dans le championnat du monde FIA, et c'est très bien.
Alors justement, on va élargir un petit peu le sujet quelques minutes. En revenant sur cette double focale Formule 1 et Endurance, avec finalement, moi j'ai trouvé... deux approches assez différentes entre une Formule 1 qui se veut ultra moderne, qui n'hésite pas à menacer au calendrier des grands prix historiques, Monaco, Spa, Silverstone. Il n'y a pas de terre sacrée, on a le sentiment, en Formule 1, qui a connu un renouveau avec Netflix, qui change ses règles, quitte à déstabiliser parfois ses amateurs historiques et parfois préhistoriques. Et puis, une ACO, je ne sais pas comment tu as vécu ça, Cédric, qui, elle, a vraiment tout communiqué sur l'édition du centenaire des 24 heures du Mans, en revendiquant un vrai patrimoine historique. J'ai trouvé comme une sorte de clash entre les deux façons de faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Le centenaire, C'est du pain béni et enfin, je vais défoncer une porte ouverte, mais il n'y en a qu'un. Vous voyez, l'année prochaine, il faut trouver autre chose. Bon, partant de là, la course est la course. C'est-à-dire que les gens sont les accompagnateurs au cours d'une vie, mais la course leur survit. Donc, que ce soit les responsables de la CEO ou enfin, qui que ce soit. Voilà, il n'était pas dur, difficile à trouver le positionnement si on réfléchit vraiment identité de la marque ACO, enfin, de la marque 24 heures, etc. Pour le championnat du monde, ouais, c'est une autre problématique. Voilà, oui, bien. Non, je crois qu'il y a une belle prestation. Mine de rien, on parle toujours de l'expérience au spectateur. Je crois, je n'y étais pas, j'étais à une soirée Ferrari, mais il paraît qu'avant le concert ou après le concert de Bob Sinclair, le spectacle proposé aux gens, parce que tout ça fait partie d'une offre, était qualitatif.
Oui, j'y étais, il était vraiment super.
Voilà, oui, voilà. Après, Liberty Media fait autre chose en Formule 1. La discipline est très différente, c'est-à-dire qu'elle est médiatique partout dans le monde. Le WEC est encore en manque de cette notoriété dans les pays qu'il visite. Voilà, après. Liberty Media vit avec son temps. Le glamour de l'époque avec les Stones, des années 70, 80, 90, que certains ont pu regretter par la suite, où ça a été devenu trop mécanique, etc. Et effectivement, il y avait peut-être moins de stars qui venaient dans le paddock, de choses comme ça. Bah voilà, Liberty a ce retour-là. C'est pas le même glamour, c'est le glamour d'aujourd'hui. L'époque est différente, les réseaux sociaux ont changé la donne. Et puis Netflix par ailleurs, a emmené la discipline dans une dimension un petit peu différente, avec ce docu-fiction
Oui.
que les gens adorent ou adorent détester, peu importe. Voilà,
On
je
se
pense que
demande
j'aurais.
s'il est encore indispensable aujourd'hui ce Drive to Survive, mais la présence de LeBron James au départ, quand même, c'est un signal fort envoyé par le WEC qui utilise les mêmes ressorts que la F1.
Oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je pense que enfin, ces porteurs, les constructeurs vont activer. Bon, on a eu un film hollywoodien aussi sur le banc il n'y a pas si longtemps. Ces porteurs, sept constructeurs officiellement, même s'il y a des petites boîtes comme Brick House, ou ça, ce sont des profils particuliers, mais et d'autres vont arriver encore. C'est une machine à communiquer aussi. Hein. Donc oui, des gens connus, oui, des pilotes qui ont envie de courir roman. Ouais, ça s'était un peu perdu, mais ça revient bien. Et je crois que le public de l'endurance aime la F1 et sait bien d'accueillir les pilotes de F1. Et je crois qu'ils y sont sensibles. Parce qu'après tout, quand on est Alonso ou je ne sais qui, on se pose peut-être pas la question, mais quel va être l'accueil réellement? Et en fait, ça se passe super bien.
Oui, clairement.
Oui.
Alors, cette expérience de Ferrari avec ces deux tableaux Formule 1 Endurance, ça sera notre dernière question, Cédric. Est-ce que ça donne pas des sacrées idées aussi? Ça pourrait pas donner des sacrées idées aussi à Alpine qui va arriver l'année prochaine en Endurance aussi? Bah, finalement, tu vois, la question qu'on se posait avec Charles Leclerc, il serait peut-être bien inspiré, Alpine, de passer tout de suite l'étape et d'engager Esteban Ocon et Pierre Gasly d'entrée de jeu en 2024 au volant de la A424 bêta qu'ils ont dévoilée le week-end dernier.
Il faudra peut-être faire rouler
Oui,
aussi des
oui.
Victor Martins, hein.
Oui.
Donc, il y a un
Non,
réservoir intéressant.
après c'est enfin, pas si simple. C'est-à-dire que le pilote
Certes.
de Formule 1, il réussit au Mans quand il s'inscrit dans la durée avec une équipe. Et c'est ce qu'a fait Alonso. C'est pas si simple. Et tout pilote de F1 que l'on est, voilà, apprendre le fonctionnement d'une voiture de course qui est assez technologique. Ça veut dire que les injonctions et les discussions en file de course entre les ingés de course et ce que peut faire le pilote au volant, lui, concernant sa voiture, c'est incessant et ça n'arrête pas. Voilà, après, c'est une question de cohésion, c'est une question de. Rappelez-vous Peugeot, leur plus récente période en endurance avant celle-ci. Les équipages ont totalement changé entre le début et la fin, du moins l'édition où il gagne. C'est-à-dire qu'au départ, on a des pilotes stars et il a fallu faire évoluer ce truc-là qui n'était pas si efficace que ça. Pilote d'endurance, c'est un vrai boulot.
Bon, on va voir ce que nous préparera en tout cas Alpine d'ici là. Merci beaucoup Cédric en tout cas de nous avoir rendu visite. On est ravis de vous avoir accueilli dans les Fous du Volant. T'as vu, d'un seul coup, je me mets à te vouvoyer, c'est le protocole.
Non, non, mais c'était très sympa. Merci à vous.
Eh ben, à très
Merci
bientôt.
Cédric.
Juste une petite chose, le projet, enfin en tout cas l'émission que tu fais, le reportage que ta boîte propose, Ferrari The Red Line, on va pouvoir le retrouver en ligne quand, dans les coulisses de cette victoire aux 24 heures du Mans?
Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas la réponse parce que on n'a pas commencé, mais là, on commence demain.
Ouais.
Mais on discute avec Ferrari du format. Voilà.
Ça va peut-être être un peu plus long que prévu.
Oui, c'est ça. Plus long ou deux épisodes. Enfin, voilà, on a 24 heures pour statuer et à retrouver sur YouTube. C'est teasé aussi sur les comptes Insta, Facebook du team. Voilà.
Bon, on suivra ça de près.
Mais,
Prochain
merci
rendez-vous du
beaucoup.
WEC.
Merci pour la pub,
Ah
du
oui,
coup.
ah oui,
prochain rendez-vous du
Et
WEC.
prochain rendez-vous du web, bah, écoutez, ça tombe bien.
C'est Monza.
C'est Monza. On se posait la question d'ailleurs dans les conversations joyeuses, une coupe à la main hier soir, de ce que ça peut impliquer. Attention, hein, les tifosi sont Formule 1 première langue.
Oui.
Et Ferrari ou pas, Monza, l'assistance, c'est pas le Grand Prix d'Italie pour le WEC va là-bas. Donc, est-ce qu'il va y avoir un effet Le Mans? C'est tout l'intérêt de la chose. Ouais, on va voir ça.
On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci encore, Cédric. On va revenir sur la F1 quand même. On s'est régalé sur les 24 heures du Mans. On a été très très bavard. Mais il se passe quelque chose en ce moment en
Tout le temps.
Formule 1, voilà, sur le marché des transferts, mais cette fois côté ingénieur. Parce que c'est bien d'avoir des bons pilotes, mais il faut avoir des bonnes voitures, sinon ça ne marche pas. Et pour avoir des bonnes voitures, il faut avant avoir de bons ingénieurs. On a eu McLaren qui a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, le recrutement de Rob Marshall. Je sais que tu en as parlé.
C'était le fin mai, oui,
voilà.
le 30 mai.
Je sais que tu en as parlé la semaine dernière. Rob Marshall, c'est quelqu'un qui a été chez Red Bull pendant 17 ans. C'est vraiment c'est une belle prise là, de la part de McLaren. Il était directeur de l'ingénierie chez Red Bull et il va prendre ses fonctions donc en 2024 chez McLaren en tant que directeur d'équipe de l'ingénierie et du design. Il sera sous les ordres de Andrea Stella, qui est le team principal de McLaren depuis le début de la saison 2023.
Oui.
Et moi, il y a une question qui m'est un peu venue à l'esprit en t'écoutant la semaine dernière, parce que du coup, j'ai écouté le podcast, la partie à laquelle j'avais pas participé. Parce qu'on se souvient que quand James Kay était parti de chez McLaren, on l'avait remplacé par un triumvirat. Il y avait
sans nommer de directeur technique.
C'est vrai. Et d'ailleurs, tu l'avais noté. Mais il y avait David Sanchez au concept et à la performance. Il y avait Peter Podoromou à l'aéro. Et Neil Oldie à l'ingénierie et au design. Bah, ça fait un peu d'emploi.
Oui, tout à fait. Bah, il sera directeur de l'ingénierie. Et en fait, Rob Marshall a été nommé directeur technique. C'était la case qui manquait. C'était la
D'accord.
case à remplir. Et Zak Brown, en fait, a remercié il y a quelques semaines. C'était au mois de mars. James Key, c'était le 23 mars, et il savait déjà qu'il avait une solution en cours.
T'es sûr que. Parce que y a eu, moi, j'ai quelques personnes qui sont souvent sous le paddock qui m'ont dit en ce moment, Zak Brown, il a l'air très soucieux. Est-ce qu'il était vraiment sûr de son coup? Est-ce qu'il n'y a pas eu une période où il s'est demandé là s'il n'allait pas se retrouver, excusez-moi de l'expression, à poil?
Non, 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 c'est que justement, si cette case, la directeur technique, n'est pas remplie, c'est qu'elle doit être remplie par quelqu'un. On savait qu'il y avait quelqu'un comme Mattia Binotto sur le marché, hein, donc tu peux pas être insensible à ça. Forcément, tu l'appelles, tu dis voilà. Alors Mattia Binotto, quand même, il est bloqué au moins jusqu'à la fin 2023, parce que alors lui, il connaissait tout de A à Z chez Ferrari, donc et encore.
La clause de jardinage est très très longue.
Voilà, on ne sait pas encore s'il pourrait même démarrer dans un nouveau projet à partir du 1er janvier 2024, parce que ça ferait peu par rapport à l'envergure qu'il avait. Mais Je suis sûr que Zach Brown n'a pas fait ça comme ça. Des négos, ça se conclut pas en deux ou trois jours là-dessus. Hein. Et je pense qu'il avait le hockey de Rob Marshall, qui voulait maintenant devenir directeur technique.
Franchir un cap, en fait.
Les pleins pouvoirs, parce que c'était un petit peu le numéro 3 ou le numéro 4 chez Red Bull. Le numéro 1, c'est
Adrien
Newell. Le numéro 2, c'est Pierre Vacher, qui a officiellement les fonctions de directeur technique, mais...
En fait, j'ai
Adrien Newey les occupe, et puis après, il y avait le chef Aero.
Ouais, mais voilà. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs numéros 2, en fait, chez Red Bull.
Le numéro 3 ou 4, enfin, c'était le directeur de l'ingénierie, qui était plus spécifiquement attaché au concept mécanique, au train arrière. Donc, ils ont fait venir quelqu'un qui est spécialiste en mécanique. Voilà. Et donc, ils ont l'aéro, ils ont Podromou aussi, qui est quand même assez réputé. Et bah, tout ça, ça va se mettre en place. Et tout ça me fait dire une chose, c'est que McLaren peut être l'Aston Martin de 2025. Là, exactement. Tout est en place, clairement. Et en plus, ils vont commencer à travailler donc, le 1er janvier. Et avec un moteur Mercedes qu'ils connaissent. Parce que Zach Brown a dit, bah non, en fait, nous, on ne veut pas du Porsche. Le Honda ne nous intéresse pas, c'est assez bizarre d'ailleurs.
Mais c'est quand même assez étonnant. Est-ce que c'est pas une façon de négocier, de commencer par dire non, ça nous intéresse pas, ça c'est pas impossible non plus.
Mais Honda est parti quand même chez Aston Martin.
Ah, donc, ça c'est sûr, voilà. C'est acté.
Tout à fait. Donc, et Porsche, pour l'instant, a gelé ses intentions pour 2026.
Je note le pour l'instant dans ta phrase.
Bah, ils sont peut-être en égo avec Williams et on aura une annonce, je sais pas quand, peut-être dans quelques mois, je sais pas du tout.
Stéphane, ce que je veux dire, c'est que. En ce moment, McLaren est en difficulté, hein, sixième au classement des constructeurs. Et encore, il y a eu ce Grand Prix d'Australie où ils ont fait vraiment le plein de points. Mais on sent que, en fait, chez McLaren, on regarde loin. On sait qu'il y a des installations aussi techniques qui, ça y est, sont terminées. En fait, on se prépare pour, alors peut-être pas 2024, mais non, clairement pour 2025, et éventuellement assez aussi pour 2026 avec la nouvelle réglementation moteur.
Bah, ils viennent,
on est en train de s'armer là, chez McLaren.
Ils viennent d'ouvrir la soufflerie, la nouvelle soufflerie, qui va nécessiter quand même quelques semaines, sinon quelques mois
pour le calibrage. Ouais, voilà, l'étalonnage.
Ça, c'est très très long, c'est un truc qui est très très fin à faire. C'est compliqué, surtout en plus, quand ton temps de soufflerie est limité. Donc, mm-hmm. Je ne sais pas comment est-ce que...
Je ne sais pas si le calibrage rentre dans les temps de soufflerie.
Il faudrait leur demander, c'est vrai. Mais ils ont d'autant plus de raisons de s'inquiéter. C'est que Norris est sous contrat jusqu'en 2025. Donc ça, ça arrive vite. Hein. Après, c'est les deux prochaines saisons pleines. Mm-hmm. Et ensuite, c'est Red Bull qui regarde Lando Norris pour la suite de Checo Pérez. Tout simplement. Donc... Zach Brown avait verrouillé Lando Norris jusqu'en 2025. Vu les résultats, quand même, non, ça fait 2-3 saisons que ça patine un peu chez McLaren. Et je serais à Lando Norris, effectivement, je réfléchirais avec cette petite information supplémentaire en tête que Max Verstappen a redit il n'y a pas très longtemps qu'il ne se voyait pas faire de vieux os en Formule 1 parce que le calendrier est à rallonge, parce que le format des week-ends est densifié.
Il veut aller faire les 24 heures du Mans avec Ferrari, on en a parlé.
En parallèle à de la Formule 1, je pense. Donc ça le ferait rêver de signer chez Ferrari, mais en Formule 1, et puis de faire aussi en amuse-gueule les 24 heures du Mans. Mais ça veut dire que là aussi, c'est pareil, ils ont Piastri, qui est maintenant tout proche hein, de Norris, il doit être à moins de 2 dixièmes par tour. Donc, ce qui est pas mal parce que
c'est un bon
Norris, c'est un top gun. Donc, Zach Brown a à peu près tout son dispositif qui est en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais résultat, rendez-vous 2025. Mais je te le redis, ça a des petits airs d'Aston Martin qui pourrait être un nouveau challenger pour Ferrari, Mercedes, Red Bull à partir de 2025. Il se passe la même chose qui s'est passé chez Aston Martin.
Chez Aston Martin, effectivement. Alors, il se passe la même chose chez McLaren. Mais on se prépare aussi chez Audi. Vous savez qu'Audi a racheté Sauber, il va arriver. Et le fameux James Key, qui était parti de chez McLaren, hop, attention, coucou, le revoilà. Et il arrive du côté de chez Sauber.
Oui. Et alors, on l'avait pris un peu pour une sanction. C'est-à-dire que Zach Brown l'avait remercié. C'est vrai que alors, la voiture de l'année dernière était quand même bien. C'était la meilleure saison depuis 10 ans de McLaren. Donc, on s'était posé la question. C'est vrai que, objectivement... Zach Brown a dit que la voiture est mauvaise cette année, en tous les cas, elle n'est pas dans les objectifs qu'on devait atteindre, y compris en soufflerie. Il a d'abord vu que les résultats en soufflerie, avant même de la mettre sur la piste,
n'étaient pas bons.
Voilà. Mais si tu veux, si tu peux remercier James Key et recruter derrière Rob Marshall et puis David Sanchez, t'es pas mal. Voilà. Donc, ça explique aussi le fait que Andreas Seidel, qui était le team principal de McLaren.
Et qui connaît très bien James Key. Voilà, bah, James il a dit, dis donc, viens par là.
tout se tient maintenant. Et James Key l'a rebondi tout de suite parce qu'on se pose la question quand même, c'est dans ce petit monde très fermé de la Formule 1, quand tu es remercié comme ça, tu as du mal à retrouver du travail peut-être assez vite. En Formule 1, il n'y a pas de problème. Bon, Andreas Seidel, ça veut quand même dire qu'il a une grosse cote. Et qu'on pourrait peut-être avoir d'autres surprises, c'est-à-dire des débauchages qui vont suivre.
Eh oui, parce que ce qu'il faut comprendre, on parle de Sauber, c'est Audi qui est derrière. C'est Audi qui, à partir de 2026, va reprendre le nom et l'équipe Sauber. Donc là, on se prépare aussi de ce côté-là. Je trouve ça passionnant, moi, parce qu'on parle beaucoup des pilotes, on parle beaucoup des voitures, mais pour attirer des pilotes, il faut une bonne voiture. Et donc, vous faites une bonne voiture, et dans un deuxième temps, vous pouvez dire à tel ou tel pilote, t'as vu les chronos qu'on fait ? Viens donc, t'as vu les ingénieurs ? Parce que les pilotes, attention, ils connaissent par cœur le nom des ingénieurs, qui est bon, qui l'est un peu moins, qui est en train de sortir des bonnes solutions. Et quand vous leur dites on a un tel, ça compte dans les négos.
Ah, puis ils les connaissent tous, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de 2 ou 3, ils connaissent les 20 ou 30 plus importants, boîtes de vitesse, électronique, etc. Quand ils viennent, ils savent que derrière.
Et ça joue dans les négociations,
alors,
c'est
clair. Ça joue. Et alors, moi, surtout, la réaction que j'ai eu, je me suis dit, mais ils prennent James Key, donc en fait, ils ne vont pas prendre Mattia Binotto. Parce qu'il y a déjà un.
Oui, parce que tu nous avais presque annoncé que Mattia Binotto.
Non, c'était la logique, tu le démarres. Voilà. Tout à fait, il est italien et suisse en même temps. L'usine est basée à Einwil. Même si Audi fera ses moteurs à Neuberg, sa partie propulseur qu'il est en train de mettre en place, qui n'est pas encore en service, loin de là. Donc je me suis dit, là, Andreas Seidel est le team principal, donc Mattia Binotto ne viendra pas en tant que directeur d'équipe, et ça c'est ce que je
m'étais dit. C'est que on est sûr qu'il ne viendra pas, parce que vu ce qu'il a dit...
Et s'il arrive, c'est plutôt en tant que directeur technique. Mais là, ils l'ont pris, directeur technique, ils l'ont trouvé.
Oui.
Donc j'ai été un petit peu surpris de voir, par deux informations de sources sérieuses, Business F1 et Corriere dello Sport, que Mattia Binotto a eu droit à une visite de l'usine Audi, l'usine propulseur de Neuberg. Et
accrochez-vous bien.
Il n'est pas très emballé. Alors, il ne l'a pas dit formellement. Officiellement, ce sont des confidences, en fait, des bruits de couloir qui ont été rapportés, mais qu'il a eu des réunions et il a dit, à propos peut-être d'une ou deux personnes, parce qu'on ne parle pas de l'entité entière d'Audi, mais il a dit, j'ai rencontré des clowns. Voilà. Alors, il faut replacer un petit peu les choses dans leur contexte, c'est-à-dire que, visiblement, ce sont peut-être des gens qui ne sont pas encore complètement au fait des standards de la Formule 1, des procédures. Pour Mattia Binotto, il connaît ça par cœur, donc il a peut-être trouvé des gens qui n'étaient pas complètement raccord avec les exigences de la Formule 1 d'aujourd'hui. Ils ont encore 3 ans pour se mettre vraiment à la page, et puis même sur la première saison, ils découvrent encore des choses. Mais Mattia Binotto aurait lâché ça et il aurait refusé tout simplement une offre d'Audi.
Je peux me permettre de faire une blague ?
Allez, vas-y, là, maintenant, on est fatigué.
Est-ce qu'ils n'y ont pas montré des clous en lui disant « Tiens, ça sera tes ingés stratégistes, puisque t'aimes bien ?» C'est une blague, c'est une blague, aucune méchanceté.
Bon, mais voilà, on parle juste de peut-être un ou deux interlocuteurs, rien de plus, mais le projet Audi est super sérieux, c'est une évidence absolue. Tout ce qu'ils ont fait en sport mécanique, ça a été de la balle.
Oui, c'est sérieux, c'est du sérieux.
En WRC, ils sont arrivés avec une nouvelle technologie, le Quattro. Ils ont créé quelque chose de novateur et qui représentait une avancée.
En endurance,
on n'en parle même pas. Donc, en Formule 1, on vous le redit, c'est vraiment le prochain géant, le prochain mastodonte qui sera face à Mercedes, qui veut se confronter, qui vient en Formule 1, juste pas pour faire le nombre, mais pour se confronter à Mercedes.
Oui, parce qu'il pouvait revenir en endurance, c'était tout droit.
Il l'avait même annoncé, et ils ont reculé.
Ouais.
Donc, c'est un petit peu surpris, donc statu quo, mais ça se met en place et on ne connaît pas la prochaine destination de Mattia Binotto.
Voilà. Tout cela pour vous dire que ça travaille beaucoup pour recruter des ingénieurs à gauche, à droite, et que finalement, dans les annonces, l'équipe qui manque un petit peu, c'est Ferrari. Alors, Fred Vasseur était au Mans ce week-end. c'est compliqué quand même, parce qu'il a la confiance de John Elkann, il a la confiance de, des gens qui lui ont confié cette, cette mission, mais pour l'instant, ça tarde à se concrétiser. Et j'ai le sentiment que tu as touché un des points, Stéphane, en évoquant quelque chose de tout bête. Géographiquement, quand vous passez de Red Bull à McLaren, ben, vous ne traversez pas l'Europe. Voilà. Et quand vous avez une famille, ça compte beaucoup.
Ça rentre en ligne de
ça
compte.
Ça doit forcément être un des problèmes. Et puis cette pression qu'il y a. Quand vous rentrez à la Scuderia Ferrari, vous savez que vous allez avoir la presse sur le dos, les tifosi sur le dos, et qu'il va falloir que ça marche.
La presse un petit peu moins, mais bon, quand tu travailles en Formule 1, tu as toujours la pression. Quand tu vas chez Mercedes, ça ne doit pas être marrant tous les jours, je dirais, parce que tu as vraiment des objectifs très très élevés. Mais c'est vrai que, bah, par exemple, Adrien Newey a toujours refusé d'aller chez Ferrari pour ça, parce qu'il ne voulait pas se fondre dans un nouvel environnement avec sa famille. C'était compliqué, il voulait rester en Angleterre. Et ça, c'est ce qui freine complètement l'évolution de Ferrari, le recrutement. Et là, quand tu as des nouveaux ingénieurs, quand tu les signes, bah, tu sais encore qu'ils vont arriver qu'en janvier prochain, par exemple, si ce sont des ingénieurs d'envergure. Donc, ils ne vont pas avoir un impact direct
sur ce qui se passe en ce moment,
mais sur 2025. Là, c'est compliqué.
Bref, on en reparlera, mais on avait envie de vous parler justement de cette guerre un petit peu sous-marine. Et on a juste oublié, j'ai noté une petite chose aussi chez McLaren, l'arrivée aussi de Mariano Alperin au département aéro. Qui vient de chez Aston Martin. Donc, il va venir renforcer David Sanchez. Pour vous dire que là, vraiment, on est en train de s'armer très très fort du côté de chez McLaren, du côté de chez Audi, et que les autres doivent évidemment en être conscients. D'ici là, ce qui nous attend, Stéphane, week-end prochain, il y a Grand Prix, et c'est pas n'importe quel Grand Prix, c'est le Grand Prix du Canada. C'est toujours fabuleux le Canada, il y a quelque chose de particulier à Montréal. On vous donne les horaires, les essais libres 1. Vendredi à 19h30, les essais libres 2 à 23h. Ah oui, avec le décalage horaire, il va falloir se coucher un petit peu tard. Les essais libres 3 samedi à 18h30 et la qualif à 22h. Le Grand Prix, lui, s'élancera dimanche à 20h. On en reparlera évidemment la semaine prochaine avec Stéphane dans les fous du volant. Je crois qu'on a été plutôt complet. On a même été très très bavard sur ces 24 heures du Mans, notamment, hein, qui nous ont vraiment régalé. Je crois qu'on va s'arrêter là. Remercier Norman Staron qui aujourd'hui travaille pour nous. Et on lui en a donné du travail parce que là, il y a beaucoup de choses à préparer sur cette émission. Stéphane, on se quitte. On se dit à la semaine prochaine.
Et d'ici là,
on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.